nous avons une conférence de Zaki Laïdi, le politologue. Le politique va-t-il mourir ? Zaki Laïdi est né en 1954. Il est politologue. Il est professeur à l'Institut d'études politiques de Paris. Sa carrière est une carrière dans les études politiques, puisqu'il est diplômé de l'Institut d'études politiques, docteur d'État en sciences politiques et depuis 1988, professeur à l'Institut d'études politiques. Vous lisez peut-être parfois ses contributions dans les quotidiens comme Libération et La Croix. Il a été entre 92 et 95 professeur associé au Centre européen de la Johns Hopkins University de Bologne. Et depuis 2000, il est conseiller auprès de Pascal Lamy, commissaire européen chargé du commerce. Il est spécialiste, vous allez le voir à sa bibliographie, de la mondialisation. Et il a aussi mené des réflexions sur le temps mondial, le besoin de sens et le déclin de la politique dans la mondialisation. Quelques indications bibliographiques, mais encore une fois, vous pouvez les retrouver sur les sites. Enquête sur la Banque mondiale de 1989 chez Fayard, Un monde privé de sens chez Fayard en 1994, Le sacre du présent chez Flammarion en 2000, Malaise dans la mondialisation, textuel 2001, et La gauche à venir, politique et mondialisation, Aube 2001. Donc je lui cède la parole pour une cinquantaine de minutes, un peu moins d'une heure, et ensuite de quoi il répondra à vos questions selon nos habitudes. Merci.
Bien, merci. Merci à tous d'être venus. Je dois dire que je suis assez impressionné de voir qu'un samedi 5 juillet, en période estivale, tant de personnes nous rejoignent, ce qui doit exprimer soit une curiosité insatiable de votre part ou un talent exceptionnel des organisateurs, probablement des deux, ce qui nous contraint, je dirais, à ne pas vous décevoir. Alors, poser la question du politique et de son avenir et de sa mort probable ou certaine ou improbable me fait, dans l'heure de la mondialisation, me fait penser à cette anecdote célèbre qui est celle du président chinois Mao Zedong recevant une délégation française qui est venue lui demander, selon lui, quelles avaient été les conséquences de la Révolution française sur la Révolution chinoise. Et sa réponse a été, après un moment d'hésitation, il leur a dit « il est trop tôt pour le dire ». Je crois qu'il est effectivement trop tôt pour le dire si le politique va mourir, mais ce qui en tout cas n'est pas trop tôt, c'est de se poser la question du statut et de la place du politique dans la mondialisation. Pour cela, il faut bien évidemment partir du politique, de ce qu'il est, et je dirais de ce qu'il exprime de manière relativement simple et basique pour les individus, c'est-à-dire le besoin de sécurité, le besoin de manger, le besoin donc de vivre et de survivre. Et au fond, celui de surmonter un certain nombre de pulsions qu'ont les hommes, rivaux par leur désir, tenaillés par la crainte, dominés par le besoin ou la soif de gloire, mais en même temps toujours animés de la nécessité de vivre. Tout ceci faisant ce que Hobbes a bien montré, que les hommes tombent dans un état de guerre permanent, celui qu'il a appelé la guerre de tous contre tous. Or, précisément parce qu'ils ne peuvent ni réprimer en eux la rivalité, la défiance ou la gloire, ni se résigner à mourir, les hommes ont au fond besoin de ce qu'on appelle un artefact qui canalise et sublime leurs pulsions, fondamentalement contradictoires, et en définitive, cet artefact, c'est l'ordre politique. Et au fond, le politique n'a pas d'autre finalité que de protéger les hommes contre eux-mêmes, et qu'au sommet de cet artefact se trouve l'État, un État dont la force et de la puissance, telle que Hobbes l'a envisagé dans le Léviathan, est une puissance de civilisation de la sauvagerie humaine, ou ce qui revient au même, de répression de tendances à la révolution ou à la guerre, qui naissent précisément et en permanence du désir de pouvoir, du désir de puissance et d'imagination des individus. Si l'on parle tant de Hobbes et de cette définition de base de la politique, c'est précisément qu'aujourd'hui on est en droit de se demander si, avec l'ouverture des frontières, la compétition effrénée des marchés, l'exacerbation de tendances individualistes, le développement considérable d'inégalité sociale, si nous serions pas ou nous ne serions pas en train d'entrer dans un cycle de dérèglement ou de dérégulation mondialisée qui déposséderait les hommes en les privant de protection. C'est donc une question qu'il faut poser, et je dirais que mon sentiment profond est que nous sommes effectivement dans une période de basculement profond du sens du politique, mais que le politique se transforme, mais ne disparaît pas, car imaginer la disparition du politique, c'est tout simplement imaginer la dissolution des communautés dans lesquelles nous vivons ou vivions jusque-là. Alors, penser l'avenir du politique, on peut le faire en partant de ce qui l'incarne, mais pas exclusivement, qui est l'État. L'État, qui est un processus évidemment de construction historique, qui s'est fait sur la base de construction, si vous voulez, territorialisée, n'est-ce pas, d'un territoire au sein duquel l'État disposait du monopole de la violence légitime, mais aussi du droit d'unifier les règles d'organisation et de vie au sein de ce territoire, à travers des processus, je dirais, d'homogénéisation sociale, culturelle et donc identitaire. Ces processus de construction d'État-nation ont été des processus extrêmement longs, en fait, et j'attire votre attention sur ce fait, car aujourd'hui, où l'on parle de crise d'identité, où l'on parle de crise de l'État, où l'on assiste à des processus de dérégulation, de déréglementation, qui ont du mal à se stabiliser, on perd peut-être de vue le fait que, historiquement, les grands processus historiques ont toujours mis du temps à se mettre en place. Il faut par exemple savoir que dans un pays comme la France, pourtant très jacobin, très centralisateur, dans le dernier quart de du 19e siècle, près de la moitié des Français n'avaient pas encore le français comme langue maternelle. Et il faut savoir, par exemple, qu'au cours de la Première Guerre mondiale, vous avez eu dans les tranchées des combats fratricides entre troupes françaises, parce que certains Français entendaient d'autres soldats français parler breton et qui ne pouvaient pas imaginer qu'il s'agissait de soldats français. Cette fonction donc de territorialisation, d'homogénéisation, elle s'est faite dans le temps, et ce qui a été l'adjuvant le plus puissant de la construction des États, ça a été la guerre, car c'est au travers des guerres que les États se sont renforcés et se sont reconnus. C'est au travers des guerres que les États se sont construits et se sont renforcés, parce que c'est la nécessité de la guerre qui a par exemple créé l'obligation de la levée en masse, de la conscription militaire, notamment à partir de 1793 en France, avec la Révolution française, qui entraînait donc l'identification du citoyen à son État par le truchement du service militaire. Et en même temps, la guerre et les conséquences de la guerre ont entraîné un besoin d'État, ont généré un besoin croissant d'État dans le domaine économique et dans le domaine social. Et si vous regardez, par exemple, l'évolution des dépenses publiques des grands États tout au long du XXe siècle, eh bien, vous êtes frappé de voir, par exemple, que c'est chaque fois, après des guerres, que le rôle des États, c'est que les dépenses publiques se sont considérablement développées. Alors, à l'État, à la territorialisation de l'État, a été historiquement liée une notion fondamentale, une notion politique fondamentale, qui est celle de la souveraineté. C'est un principe qui, aujourd'hui, est de nouveau remis en question, précisément au travers de la mondialisation. Mais c'est au travers de l'idée de la souveraineté que l'État a trouvé précisément son identité sur le plan interne comme sur le plan externe. Et je crois qu'il est très important de revenir à cette idée de souveraineté et à celui qui, en France, a en fait été à l'origine de la définition moderne de la souveraineté, qui est Jean Bodin. Et si vous regardez et si vous revenez sur son grand livre qui est Les six livres de la République, dans lesquels il définit ce qu'est la souveraineté, vous êtes frappé par le fait, et j'espère que vous le serez, de voir combien les éléments qui lui permettent de définir cette souveraineté de l'État et donc de définir à travers l'État le statut du politique, les hypothèses qu'il formule sont précisément toutes les hypothèses qui aujourd'hui sont remises en cause par le processus de mondialisation. Je vais m'attacher à en extraire quatre. La première chose que dit Bodin, c'est de dire que la souveraineté de l'État place celui-ci en position de surplomb, n'est-ce pas ? C'est-à-dire au-dessus de la société. Il y a la société et il y a l'État au-dessus de cette société. Et ce que dit Bodin, ce qui est très important, il dit les formes de cet État, les formes d'organisation de cet État, ne saurait en aucun cas se calquer sur le canevas de ce qu'il appelle la société mercantiliste, c'est-à-dire sur les règles du contrat, sur les règles du marché, sur les règles de l'échange. Donc, il y a cette idée d'un État qui serait au-dessus de la société et qui ne peut pas s'identifier, je dirais, à la société marchande et à la logique du marché et de l'échange et du contrat. La deuxième idée, c'est de dire que le droit et la politique sont des catégories qui sont indissociables. La troisième est de dire qu'il y a une dichotomie absolue entre la souveraineté interne et la souveraineté externe. La souveraineté interne, ça veut dire qu'au fond, l'État est maître chez lui, à l'intérieur de ses frontières, mais qu'évidemment, au-delà de ses frontières, il se heurte à la souveraineté d'un autre État, et qu'au fond le monde serait organisé par des souverainetés concurrentes entre différents États. Et puis le dernier élément, c'est de dire que la souveraineté est un principe inaliénable qui est impossible à partager. Alors je crois que ces différents points sur lesquels je vais insister sont très importants à avoir à l'esprit, pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils ont puissamment imprégné la culture politique française dans des proportions considérable, considérable. Et on ne peut pas comprendre le débat français sur la mondialisation, l'attitude parfois défensive que ces élites politiques ont vis-à-vis de la mondialisation, qu'il s'agisse du partage de la souveraineté, qu'il s'agisse du rôle de la société civile, notamment, si l'on ne tient pas compte de l'imprégnation profonde de ces élites par les théories de Baudin. Et je dirais que la France est probablement, parmi les grands pays, celui qui a le plus intériorisé cette conception, je dirais, très forte, extrême de la souveraineté, et notamment de la souveraineté de l'État. La deuxième, c'est que, précisément, ce sont ces différentes hypothèses que fait Baudin sur la souveraineté qui sont remises en cause par la mondialisation. Alors, le premier point, qui est d'une certaine manière le plus fondamental, c'est cette idée d'un État qui serait en position de surplomb au-dessus de la société. Et je crois que ce qui a souvent été mal compris par ceux qui travaillent et réfléchissent sur la souveraineté à l'heure de la mondialisation, l'erreur peut-être qu'ils commettent, c'est de croire que la remise en cause de la souveraineté de l'État n'est que la conséquence mécanique, je dirais, du développement des échanges, de l'interpénétration des sociétés, des économies, des cultures, etc. Tout ceci est évidemment vrai et important, mais je crois que ce n'est pas le point le plus important. Le point le plus important, c'est que la perte de la transformation de la notion de souveraineté et du rapport de la société à l'État vient du fait que l'État a fondamentalement perdu la légitimité qu'il avait de contrôler la société. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la légitimité du contrôle de l'État sur la société. Cette mutation, elle est au cœur de l'évolution libérale de nos sociétés, qui tente précisément à faire de l'individu le seul détenteur de la souveraineté. Et je crois que c'est de là qu'il faut partir pour comprendre ce qui se passe. Si on prend par exemple quelque chose qui s'appellerait l'identité politique, des citoyens. On va dire être de gauche ou être de droite. Si vous regardez tendanciellement sur 30-40 ans, il y a 40 ans, 30 ans, même peut-être encore 20 ans, être de gauche ou comme être de droite permettait de saisir l'identité d'un individu. C'est-à-dire que, au fond, être de droite ou être de gauche, ça définissait quelqu'un. Et ça le définissait au-delà de ses choix électoraux. C'est-à-dire que le fait d'être de gauche, le fait d'être de droite, ça renvoyait à des comportements, à des attitudes, à une sociologie, etc. Donc ça veut dire que son identité personnelle était surplombée par une identité politique. Si vous regardez aujourd'hui la situation, ben vous êtes frappé de ce processus formidable de déperdition où non seulement, je dirais, l'appartenance partisane ne définit plus pleinement et certainement pas en totalité l'identité d'un être, mais je dirais que cet individu refuse désormais de se résumer à une identité politique. Il est difficile aujourd'hui de trouver des individus qui considèrent que leur identité politique est ce qui surplombe toute leur identité, qui apparaîtrait comme une sorte de clé à toute leur identité. Eh bien, la perte de position de surplomb du politique sur la société est l'expression ou la traduction de cette... de ce qu'on pourrait appeler une détotalisation du politique, qui ne veut pas donc dire que le politique disparaît, qu'il n'a plus de sens, mais que le politique n'est plus tout. Le politique n'est plus tout. C'est ça le grand changement. Mais en même temps, et c'est là pourquoi je ne pense pas que le politique disparaisse, c'est qu'au fur et à mesure que le politique n'est plus tout, le politique est dans tout, c'est-à-dire que le politique s'intègre, s'insère dans tous les débats dans lesquels les individus se trouvent situés. Et je dirais que pour bien comprendre cette évolution, je crois qu'il faut voir que désormais, le politique n'est pensé que par rapport au vécu qu'en ont les individus. Je dirais que la clé de compréhension du politique, c'est l'existence de mondes vécus, c'est-à-dire des contextes dans lesquels les individus se représentent non plus le monde en général ou de manière abstraite, mais les mondes de leur vie. Et qu'une des caractéristiques fondamentales de notre temps, c'est l'éclatement considérable de ces mondes vécus dans lesquels ils vivent et se développent. Pendant longtemps, si vous voulez, le nombre des mondes vécus était limité. Il y avait le monde vécu du travail, le monde vécu de sa famille, qui étaient des mondes distincts mais complémentaires, et qui étaient surplombés par ce qu'on appellerait un espace public, qui était lui-même borné par de grandes institutions comme la police, la justice, l'armée, l'école, le Parlement. Bien. Aujourd'hui, je crois que les individus n'arrivent à se représenter précisément ces institutions que s'ils arrivent à les intégrer à leur propre vécu. Et tout ce qu'on appelle la crise, l'éloignement ou le besoin de proximité dont on parle tant, résulte précisément de cela. C'est-à-dire qu'au fond, tant qu'une institution n'est pas intégrée au vécu d'un individu, elle lui paraît comme une institution totalement abstraite, ou très éloigné de ses préoccupations. Et ce n'est pas parce qu'on rappellera à l'ordre ces individus ou ces citoyens en leur disant qu'il faut respecter telle et telle institution que, pour autant, leur rapport à ces institutions va se trouver modifié. Aujourd'hui, l'individu vit dans des mondes vécus de plus en plus nombreux. Il y a le monde vécu de sa génération, il y a le monde vécu de sa profession, il y a le monde vécu de sa famille, il y a le monde vécu de ses loisirs, le monde vécu de ses engagements. Et il y a une sorte de démultiplication donc, de monde vécu qui constitue, je dirais, la matrice identitaire des individus. Alors, ces mondes vécus, à partir desquels se structure l'identité des individus, ont besoin du politique. Ont besoin du politique parce qu'ils ont besoin d'être reconnus par le politique. Et c'est cela le paradoxe. Quand je disais tout à l'heure que le politique n'est plus tout, mais que le politique est dans tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au contraire, quel que soit le domaine d'activité, on a besoin, par exemple, de la reconnaissance de la puissance publique, de l'intervention de la puissance publique, de la réglementation de la puissance publique, pour organiser ces mondes vécus, et non pas pour que la puissance publique donne un sens au contenu à ces mondes vécus. Mais ces mondes vécus, pour vivre et se faire reconnaître, ont besoin donc du politique. Et un sociologue, Niklas Luhmann, qui est le grand théoricien des mondes vécus, a bien montré cela. Il montre que non seulement les individus vivent dans une pluralité de mondes vécus, mais qu'ils font en sorte que ces différents mondes vécus se tiennent à distance les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que l'individu n'a pas besoin de faire une synthèse et de donner une cohérence absolue à ces mondes vécus. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de créer une cohérence entre sa vie professionnelle, sa vie affective, ses engagements sportifs, ses engagements religieux, ses engagements politiques. Et au contraire, c'est dans la pluralisation de ces mondes vécus qui cherchent à se construire une identité. Et il est absolument évident que dans ce processus, je dirais, de démultiplication des mondes vécus, la mondialisation joue un rôle considérable, d'abord parce qu'elle étend spatialement le champ dans lequel se définissent, se construisent ces mondes vécus, et elle dissocie davantage le rapport entre l'intensité des expériences de la vie et des projets qui sont par exemple partagés par des milliers de salariés dans une même entreprise mondialisée, avec les projets ou les expériences que vit un individu dans son environnement immédiat. Autrement dit, la mondialisation va faire que vous êtes dans votre vie professionnelle connecté avec le reste du monde pendant 8 heures de votre journée, n'est-ce pas ? Et que cette connexion avec le monde est du coup déconnectée de votre vécu familial ou personnel qui lui reste localisé ou territorialisé. La conséquence de cela, c'est que, au fond, le politique ne se construit plus sur la base d'un principe d'autorité et que le politique n'est plus en position de dire, d'assigner des rôles, des places, de produire du sens aux individus. Et au fond, tout ce qui est dit autour de l'idée de gouvernance traduit fondamentalement cette réalité. La gouvernance, qu'est-ce que c'est sinon le fait que l'État, le politique, est obligé de négocier en permanence sa place avec d'autres acteurs, que ce soit les acteurs du marché, que ce soit les acteurs de la société civile, et qu'au fond, il ne peut plus imposer une norme par en haut à une société. Et donc ça, c'est une transformation profonde du politique. Alors, cette transformation du politique entraîne une sorte de redistribution des rôles vers d'autres acteurs, et le premier d'entre eux, c'est bien évidemment le marché. C'est une des caractéristiques fondamentales de la mondialisation que d'avoir modifié depuis une quinzaine d'années les règles du jeu capitaliste. C'est-à-dire que la mondialisation, c'est fondamentalement aujourd'hui, même si c'est un processus historique ancien, la modalité actuelle de la mondialisation, c'est un nouveau capitalisme qui repose sur de nouvelles règles, qui est en gros un capitalisme beaucoup plus financier qu'industriel, et qui surtout cherche à s'extraire des contraintes de la territorialité et plus exactement de la territorialité étatique nationale, stato-nationale. Hein. Le capitalisme tel qu'on l'a connu au lendemain de la guerre, jusqu'à la fin des années 70, c'est un capitalisme, si vous voulez, qui est développé, construit à l'intérieur d'un espace national sur la base d'un partage de ce qu'on appelle la valeur ajoutée, c'est-à-dire la valeur créée, la richesse créée, entre le travail et le capital. Donc il y a une richesse qui est créée, et cette richesse, elle est partagée entre les salariés et les capitalistes. Bien. Dans ce partage décisif de la valeur ajoutée, l'État jouait un rôle considérable. Et l'État a stabilisé le partage de cette valeur ajoutée par toute une série de dispositifs qui permettaient précisément d'établir un équilibre entre les salariés et les capitalistes. Et donc, je dirais qu'une des fonctions du politique a été précisément d'organiser le partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire le partage de la richesse, créée. Le capitalisme dans lequel on se trouve aujourd'hui n'a plus les mêmes contraintes et donc n'a plus les mêmes règles d'organisation. La priorité du capitalisme aujourd'hui n'est plus la stabilisation territoriale du partage de la valeur ajoutée entre le travail et le capital, mais la généralisation du principe de la concurrence sur la base d'une déterritorialisation qui privilégie la rémunération du capital par rapport à celle du travail. Le fond de l'affaire, c'est quoi ? Le fond de l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, le capital est devenu beaucoup plus mobile, précisément parce qu'il passe les frontières. Et c'est ça, la mondialisation. Le capital est donc beaucoup plus mobile, et donc il va chercher, au-delà de ses frontières, les moyens de maximiser sa rentabilité. Il va jouer sur des effets d'échelle, mais il va jouer aussi, il va aller là où il a le plus avantage et intérêt à y aller. Mais en même temps, le travail, lui, est beaucoup moins mobile. Le travail est immobile. Le capital est très mobile, mais le travail, lui, est beaucoup plus immobile. Pourquoi ? Tout simplement parce que il est beaucoup plus difficile de faire circuler des individus que faire circuler du capital. Sauf pour une petite frange de salariés, par exemple, très mobiles, qui font, par exemple, qu'aujourd'hui, Londres est la cinquième ville française. Vous avez 300 000 Français qui sont délocalisés, si je puis dire, à Londres pour échapper aux contraintes de la fiscalité et qui bénéficient de conditions de travail tout à fait avantageuses à Londres, à la City. Bon, eux, ils ont suivi le capital où il est. Alors, le fait que le capital soit mobile et que le travail, lui, ne le soit pas, mécaniquement, transforme le rapport de force entre les salariés et les capitalistes. C'est mécanique, puisque le capitaliste peut dire, bon, si je n'ai pas les conditions ici, je vais ailleurs. Le salarié ne peut pas dire au capitaliste que si il ne remplit pas un certain nombre de conditions, il ira voir ailleurs. Donc, il y a ici un véritable nœud politique qui pose la question de la place du politique et qui pose, au-delà de ça, je dirais, la tendance de ce capitalisme à vouloir imposer sa norme, c'est-à-dire à faire en sorte que la norme privée devienne une norme publique ou alors de contourner la norme publique ou faire en sorte que la norme publique ne lui soit pas opposable. Ce qui, bien évidemment, a des conséquences en termes de démocratie politique, puisque cette emprise de la logique capitaliste marchande est tellement forte que le citoyen est en droit de se demander précisément qu'est-ce qui lui reste, quels moyens il a pour agir. Et je dirais, pour employer une expression marchande, le citoyen a le sentiment que le pouvoir d'achat de la démocratie est érodé par cette mondialisation du capital. Alors, cette mondialisation du capital, elle pose un problème aux politiques parce que cette mondialisation du capital est une fantastique source de création de richesses. Hein, car la mondialisation est une source considérable d'accélération de création de richesses. Et je dirais que jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons su aussi bien produire de la richesse dans des conditions exceptionnelles, en tirant avantage de la technologie, de la science et des économies d'échelle. Bien. Mais qu'en même temps, au fur et à mesure que la mondialisation se montre capable de créer de la richesse privée, elle a de plus en plus de mal à défendre le bien public et la richesse publique. Et au fond, l'enjeu politique de la mondialisation, c'est ça. C'est comment on fait pour créer de la richesse privée sans détruire du bien public. Parce que malgré tout, il y a un bien public. Alors, vous avez une thèse libérale classique qui va dire que c'est le marché qui va réguler ce déséquilibre. Hein? Car à partir du moment où le capital a besoin de débouchés, à partir du moment où le capital a besoin de consommation, eh bien, il a intérêt à ce que le pouvoir d'achat de ceux qui sont les acheteurs potentiels s'accroît. Et on peut d'ailleurs dire que c'était une des grandes faiblesses de l'analyse mécanique marxiste que de croire à cette paupérisation inexorable, parce qu'effectivement, le capitalisme a besoin, je dirais, de consommateurs qui vont acheter. Mais à l'évidence, cette hypothèse ne tient pas. Cette hypothèse ne tient pas parce que la mondialisation ne fonctionne pas selon les principes de l'économie libérale. Parce que c'est ça le grand paradoxe. La mondialisation ne fonctionne pas sur les principes de l'économie libérale. Pourquoi elle ne fonctionne pas sur les principes de l'économie libérale ? Parce que si vous prenez par exemple l'épargne, l'investissement, bien, la théorie libérale dit l'épargne va, qui existe dans les pays riches et vieux, va se déverse dans les pays pauvres et jeunes, parce que la rentabilité de l'investissement et du capital est plus forte. Ce que l'on constate aujourd'hui est exactement l'inverse, c'est-à-dire que l'argent des riches va dans les pays riches et non pas vers les pays pauvres. Et donc, par exemple, on a, de ce point de vue-là, un dérèglement qui est essentiel. Hein. Le second principe qui fait que la mondialisation ne fonctionne pas selon les principes libéraux, c'est qu'il y a mobilité du capital, mais il n'y a pas mobilité du travail. Or, l'économie libérale a toujours dit que la mobilité du travail doit accompagner la mobilité du capital. Il n'y a pas de mobilité du travail. Il n'y a qu'une mobilité du capital. Et donc, là aussi, il y a un deuxième déséquilibre, et que l'accentuation de ces deux déséquilibres est une des causes, justement, de l'accroissement de l'écart entre les pays du Nord et les pays du Sud. Mais dans cette articulation entre le bien public et la richesse privée, il y a un autre problème qui tient au mécanisme, je dirais, de pouvoir qui existe dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est absolument évident que nous voyons se mettre en place de plus en plus des organismes informelle de décisions de nature strictement privée qui cherche précisément à définir à partir des intérêts du secteur privé une norme publique et à l'imposer aux acteurs publics et demander aux États donc de la reconnaître comme la norme publique. Je donnerai deux exemples. Le premier, c'est celui de l'Internet, où la régulation échappe totalement aux États, alors qu'il y a un organisme qui s'appelle l'Union internationale des télécommunications, qui logiquement, et depuis un siècle, qui a organisé les télécommunications à l'échelle mondiale, mais qui aurait parfaitement pu prendre le relais pour réguler l'Internet. L'Internet, aujourd'hui, il est régulé par quelques organismes, dont un des plus importants est totalement informel, n'a pas d'existence juridique, mais c'est lui, pourtant, qui définit des protocoles d'interopérabilité des composants d'Internet et qui définit donc ce qu'est la norme en matière d'Internet. Alors, ça ne veut pas dire qu'il le fait mal ou que les conséquences sont catastrophiques, mais à l'évidence, il y a un problème, c'est-à-dire qui désigne ce comité informel, ces organismes d'autorégulation, et que se passe-t-il si un jour ils définissent une norme qui contrevient tout simplement à l'intérêt public. Bien. Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est celui des normes comptables. Bon. Alors là aussi, c'est un domaine qui peut paraître extraordinairement technique et qui est terriblement technique, mais qui a des conséquences considérables sur la manière, je dirais, de penser, d'interpréter, de donner du sens même à quelque chose d'aussi technique que la comptabilité. Or là, on a aussi le même processus, c'est-à-dire que vous avez un organisme privé à forte domination anglo-saxonne, c'est-à-dire que par exemple vous avez un Français, mais vous avez un Néo-Zélandais, bon, un Australien, un Anglais, un Américain. Et là aussi, les normes de cette institution sont soumises à la validation des États, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, par exemple, cet organisme qui s'appelle l'IASB a défini une norme, a de nouvelles normes comptables qui vont rentrer en vigueur dans l'Union européenne à partir de 2005. Alors, si vous regardez ces normes, ces nouvelles normes comptables, donc, qui sont des choses, encore une fois, épouvantablement techniques. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas la technique, que la plupart d'entre vous, et moi le premier, sont incapables de comprendre, mais c'est la philosophie qui apparaît derrière cette technique. Qu'est-ce que disent ces nouvelles normes ? Elles disent qu'il faut changer la manière dont on va évaluer le bilan d'une entreprise. Or, jusqu'à présent, on évaluait le bilan d'une entreprise, c'est-à-dire qu'au fond, on évaluait la richesse comptable d'une entreprise à travers un principe comptable qui était ce qu'on appelait le coût historique, c'est-à-dire le coût auquel historiquement on avait acquis un bien. Donc si par exemple vous achetez un immeuble qui fait partie du patrimoine d'une entreprise, bien le coût historique de ce bien constitue la valeur, c'est la valeur d'acquisition de ce bien qui définit la valeur de ce bien. Alors, dans ce nouveau régime comptable d'inspiration anglo-saxonne, Ce qui compte, ce n'est plus le coût historique, mais ce qu'on appelle la valeur du marché au jour d'aujourd'hui. Alors, cette simple mutation a des conséquences considérables, parce que l'idée que le bilan d'une entreprise est constitué d'agrégats que l'on peut liquider à n'importe quel moment, et qu'il importe donc que son évaluation s'effectue de manière permanente en fonction de l'évolution du marché. La conséquence, c'est que l'entreprise n'est plus un patrimoine, c'est un actif financier. Donc c'est une manière d'appréhender, si vous voulez, le rôle de l'entreprise qui est totalement nouvelle et qui évidemment renforce la logique de marché et la volatilité financière. Donc cet exemple pour vous dire que, donc on peut débattre de l'intérêt ou pas de ces normes, ce n'est pas de ça dont je veux parler. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est le fait que vous avez, dans ce cas particulier, un organisme dit technique, non élu, dont la représentativité peut parfaitement être discutée, et qui va donc émettre des normes qui vont avoir donc des conséquences considérables, indirectes, même sur la vie de chacun. Bien évidemment, on ne va pas mobiliser des opinions sur les nouvelles règles comptables, mais les États sont, d'une certaine manière, tombés dans ces pièges. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déserté toute une série d'institutions ou de lieux où se débattent d'un certain nombre de problèmes, mais qui ont pour inconvénient d'être devenus des problèmes extraordinairement techniques. Donc les États, ils en sont à la pompe, aux grandes conférences, aux grands discours, où tout apparaît extraordinairement flamboyant, mais où rien ne se décide. Et vous avez à côté des organismes terriblement techniques, profondément ennuyeux, qui se réunissent, je ne dirais pas clandestinement, mais enfin qui ne font aucune publicité pour leur réunion, et qui prennent des décisions qui, en fait, ont des conséquences infiniment plus importantes que l'on pourrait le penser. Donc ça, c'est évidemment un problème qui est important et qui est un véritable défi pour le politique. Je ne sais pas de combien de temps j'ai encore. D'accord, parce que je risque d'être intarissable sur le sujet. Alors, je voudrais, ceci étant dit, essayer d'attirer votre attention sur un certain nombre d'enjeux qui se posent et qui vont se poser à l'avenir pour le politique. Donc, comme je vous le disais au début de mon intervention, je crois que le politique se transforme profondément pour différentes raisons dont j'ai évoqué en tout cas certaines, mais je ne crois pas pour autant que le politique va disparaître. Et ce n'est pas, et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, ce n'est pas parce qu'on n'est plus dans l'épure d'un système de souveraineté politique classique tel qu'il a été défini par Bodin que pour autant, je dirais, tout disparaît ou tout fout le camp. Je donnerai au moins un exemple. C'est celui de l'idée de Bodin qui disait que, par exemple, la souveraineté ne se partage pas parce qu'elle est inaliénable. Bon. Ça, c'est dans la culture politique française un point extraordinairement puissant qui fait d'ailleurs que nous n'avons jamais considéré accepter formellement le principe d'abandon de souveraineté à la suite notamment, par exemple, du traité de Maastricht. Hein. Formellement, juridiquement, la France ne reconnaît pas les abandons de souveraineté. Elle accepte le principe de délégation de compétences, ce qui est un pur habillage, mais qui est, malgré tout, l'expression de cet attachement très fort à l'idée de souveraineté. Mais le partage de souveraineté aujourd'hui ne peut pas être considéré. Dire qu'aujourd'hui la souveraineté ne se partage pas et que si on partage la souveraineté, on l'abandonne, c'est rester attaché à une vision qui aujourd'hui n'a plus aucun sens opérationnel. Parce qu'au contraire, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, la meilleure manière de renforcer sa souveraineté, c'est de la partager. Et c'est ce que nous essayons de faire au sein de l'Europe. Finalement, l'Europe, qu'est-ce que c'est ? Sinon la mutualisation de nos forces pour faire face à la mondialisation. Et il est absolument évident que lorsque nous sommes unis, nous pesons, et lorsque nous sommes désunis, nous ne pesons pas. On l'a vu sur le plan politique. Mais si on prend un domaine très précis, qui est le domaine du commerce, c'est absolument évident. Aujourd'hui, nous pesons commercialement face aux États-Unis, qui sont tenus de nous traiter sur un pied d'égalité, parce que nous avons fait le choix, depuis le traité de Rome en 1957, de considérer qu'il n'y avait pas la politique commerciale de la France, de l'Allemagne, du Benelux, de l'Italie, de l'Espagne, de la Lettonie et de la Slovénie, mais qu'il y avait une politique commerciale commune. Et que c'est parce que nous avons décidé d'avoir, de fédéraliser notre politique commerciale, que nous sommes capables de traiter d'égal à égal et que nous sommes capables de faire prévaloir nos propres préférences. Donc ça, je crois que c'est un élément absolument fondamental qu'il faut avoir à l'esprit. L'autre enjeu auquel il faut lier la question de la souveraineté, c'est la notion essentielle de la responsabilité. Aujourd'hui, on ne peut plus penser la souveraineté sans la référer à l'idée de la responsabilité. La responsabilité, je dirais au sens philosophique du terme, consiste à s'intéresser non pas simplement aux conditions dans lesquelles on agit, mais aux conséquences de nos actions. Dans ce registre, si vous voulez, on est pris entre deux traditions. Je dirais une qui est un peu d'origine kantienne, qui a été d'ailleurs reprise par John Rawls, et qui se préoccupe beaucoup plus des intentions et des principes sur lesquels on fonde ses choix que sur les conséquences de nos choix, de sorte que même si les conséquences de nos choix sont négatives, le fait que ce choix ait été guidé par de bonnes intentions les rend acceptables, voire défendables. C'est en gros ce qu'on appelle la morale de l'intention. Alors, pourquoi c'est important de sortir de ce schéma ? Parce que ce schéma qui repose uniquement sur l'intention consiste à dire que ce que l'on fait est donc toujours plus important que ce que l'on oublie de faire. Ça veut dire aussi que les actes présents sont plus importants que les actes à venir. Et ça veut dire que les actes et les effets individuels sont plus significatifs et importants que les effets de groupe. Or, cette morale de l'intention est aujourd'hui précisément, je crois, remise en cause par la logique de la mondialisation. Parce que si vous prenez un exemple, qui est celui de l'environnement, sur lequel je terminerai, vous vous rendez compte que c'est l'exemple même de problème qui ne peut plus se prêter à cette définition de la responsabilité. Pourquoi ? Eh bien, parce que, en matière d'environnement, la distinction entre ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas, eh bien, n'est plus, je dirais, moralement fondée. Je dirais qu'elle est même inversée. Puisqu'en effet, polluer, c'est pas simplement délibérément détruire l'environnement pour réduire ses coûts ou défendre ses intérêts. Le pollueur potentiel, c'est celui qui néglige d'éteindre le moteur de sa voiture, qui ne maîtrise pas sa consommation d'énergie, qui ne procède pas au tri de ses ordures, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que on voit bien que notre responsabilité en matière d'environnement ne consiste pas simplement à commettre des actes qui détruisent délibérément l'environnement, mais le fait de ne pas agir a des conséquences aussi négatives que le fait d'agir négativement. Et donc là, il y a il y a une transformation de la responsabilité qui ne peut plus être liée à la, qui peut plus reposer sur la morale de l'intention. Par ailleurs, cette idée selon laquelle on est plus responsable, je dirais en gros, de sa famille que de sa patrie, là aussi perd beaucoup de sa pertinence dans, face à des enjeux mondiaux, puisque précisément, ça n'a aucun sens aujourd'hui de défendre l'environnement d'un pays, parce que les conséquences de l'environnement sont des conséquences qui dépassent les frontières. Et donc là, il faut essayer de penser la souveraineté par rapport à cette idée de responsabilité. Voilà, je crois que je pourrais développer d'autres points, mais je pense qu'il serait peut-être plus sage de m'arrêter là. Merci.
On va passer aux questions.
Je m'attendais à ce que vous disiez quelque chose aussi à propos d'un élément très symptomatique de cette crise que vous décrivez, qui est celle de la crise des partis politiques. Donc ça pouvait être un premier élément de cette question. Un deuxième élément, en revanche, était sur la renaissance donc, du politique à travers, par exemple, l'extension des champs d'action politique à des domaines jusqu'ici inédits, comme l'eau, les brevets ou même la génétique, et aussi à l'internationalisation de ces mouvements. Donc, est-ce qu'en fin de compte, on n'est pas plutôt à un moment de mondialisation du politique ?
Oui, on peut tout à fait voir les choses sous cet angle, mais je crois qu'effectivement, il y a une mondialisation de l'action politique. Mais la seule erreur à ne pas commettre, c'est de penser que la mondialisation du politique est un substitut à l'action politique dans un cadre territorial. Parce que nous restons malgré tout dans des unités politiques territorialisées. La légitimité se construit encore dans des espaces territorialisés, et je dirais que la mondialisation du politique ne doit pas se penser contre la territorialisation du politique, de même que la dimension participative de l'action politique ne doit pas se penser contre la dimension représentative du politique. Le problème est d'articuler les deux.
Vous nous avez remarquablement décrit l'emprise du capitalisme financier dans le processus de mondialisation en cours, mais j'aimerais avoir votre opinion sur le fait que cette emprise, me semble-t-il, a résulté d'une décision des États, et en particulier des États dominants au début des années 80, pour lutter en partie contre l'inflation et pour permettre, j'allais dire, une expansion de leurs propres forces. Et puis aujourd'hui, prenons l'Europe, je crois que vous êtes bien placé pour en parler, où il y a une politique, je dirais, qui est décidée par les États au niveau de l'Europe pour accentuer cette libéralisation et, j'allais dire, faire une politique au niveau de l'Europe plus libérale que celle des États-Unis, que les États-Unis pratiquent.
Oui, vous avez raison. Vous avez raison d'insister sur le fait que la mondialisation ne peut pas être définie comme un processus univoque de construction ou de développement contre les États. Ma thèse a toujours été de dire que c'est un processus dialectique où la mondialisation se développe avec et contre les États, systématiquement, mais que la mondialisation a toujours besoin des États. Alors, c'est vrai que les États, en fait, peuvent devenir des acteurs décisifs des processus de la mondialisation au travers de ce que vous avez analysé. Maintenant, à propos de l'Europe, je ne dirais pas que la politique conduite au niveau européen est plus libérale que la politique américaine. Le problème vient du fait que, précisément, comme nous n'avons pas encore, je dirais, de centre authentiquement politique, nous faisons des choix dans un seul domaine, c'est-à-dire celui où, je dirais, nos choix sont fédéralisés. Autrement dit, on a plus de facilité à faire du marché unique qu'à développer des infrastructures collectives. Mais ça crée effectivement un déséquilibre dans ce domaine, et vous avez raison de le souligner.
Vous avez parlé d'organismes informels qui créaient des nouvelles règles, en fait, ou qui tentaient d'imposer leurs règles. J'en ai plus ou moins entendu parler. Enfin, je ne sais pas si c'est ça, c'est le groupe de Bilderberg, tout ça, ou l'OMC, plutôt, non, plus officiel.
L'OMC n'a absolument rien de privé. C'est d'une organisation intergouvernementale.
En fait, je voulais savoir s'il y avait une quelconque déjà volonté de lutter, ou forte volonté de lutter contre ces organismes, et ensuite, quelles seraient les méthodes pour contrer ou du moins équilibrer les forces entre l'intérêt public et l'intérêt de ces organismes.
Voilà. Oui, je pense que c'est une. Je pense que le problème n'est pas de... D'abord, il faut identifier ces organismes. Tout dépend des secteurs où cela se pose, enfin où le problème se pose, donc il faut circonscrire les domaines. La première chose, je veux dire, que ces organismes à la limite existent n'est pas en soi problématique. Ce qui est problématique, c'est qu'ils puissent s'abstraire d'un contrôle politique, ou alors que les politiques, parce que c'est ça aussi le problème, c'est pas tant que ces organismes veulent se soustraire à un contrôle politique ou qu'ils cherchent à fuir le contrôle politique, c'est que les États, le politique, n'assument pas ses responsabilités. Et parfois, ils donnent l'impression d'avoir intériorisé sa propre défaite. Je l'ai bien vu dans cette affaire des normes comptables, où on voit bien qu'il y a une sorte de paresse des États à ne pas mesurer les conséquences de ces enjeux et de ne pas mettre en discussion les choix qui sont proposés. Donc je dirais que dans beaucoup de domaines, il faudrait que les États prennent leur responsabilité face à ces organismes. Et une conscience plus forte des enjeux du bien public. Je pense qu'un des grands domaines où le problème du bien public va se poser dans les années à venir, ça sera les questions de propriété du vivant. C'est un des enjeux les plus fondamentaux, et là où on voit à l'évidence que les États ne sont pas à la hauteur de l'enjeu, même s'ils ont essayé de mener, par exemple, un projet de séquencement du génome concurrent avec celui du secteur privé.
Toute ma vie d'éducatrice, ça m'intéressait beaucoup les problèmes, parce que c'est un problème de la politique à l'égard de la société. Il me semble que quand on parle de politique, définitivement, on parle de société. C'est vrai. Vous l'avez dit quelque part. Mais je ne vois pas tellement, et je sais bien que vous n'avez pas la solution, évidemment.
Oh, on ne sait jamais, hein?
On ne sait jamais, oui. On ne sait jamais. Mais quand on parle de la politique, on parle de la société, et tout de suite, on doit parler, on doit régler les problèmes de l'éducation et la santé. Puisque même si la santé n'existe pas, ne peut pas même exister l'éducation. Comment on va s'éduquer sans la santé? Il y a quelqu'un ici qui peut me dire le contraire? Donc, s'il y a la santé d'abord, et puis l'éducation, le problème qui me touche énormément en tant que travailleuse, ouvrière de l'éducation, éducation et société, c'est que je vois très mal l'ambiguïté qu'il y a, évidemment, et le paradoxe qui existe entre la politique qui ne se construit plus sur les principes de l'autorité, comme vous avez bien dit, et vous avez entièrement raison.
Merci.
Et en même temps, oui, et en même temps, la politique partisane. C'est ça qui me préoccupe. Puisque je ne suis qu'une victime depuis 28 ans à l'école primaire, en tant qu'institutrice, évidemment, déjà dégagée du monde de l'éducation primaire, comment travailler à l'égard d'une autorité suprême qui n'accepte pas négociation. Et je vais vous poser la question. Comment pas partager, parce que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous avez dit après que la souveraineté, pour moi, c'est égal autorité, que c'est le
poser la question,
de sens, s'il vous plaît. De sens, attendez, de sens,
poser la question.
De sens de ne pas partager. Attention.
Non, mais écoutez, vous êtes en train de prendre la,
la question.
De parole pour les autres questions.
Écoutez.
Vous posez votre question
non,
ou vous vous arrêtez, s'il vous plaît.
La souveraineté n'accepte pas de partage, mais l'autorité quand même peut accepter une certaine négociation. Alors, la question c'est, comment essayer de négocier avec une autorité qui n'accepte pas, et ce n'est pas vrai, ça, qui n'accepte pas la négociation entre, par exemple, l'éducation entre le maître et l'autorité suprême.
Bien. Ben, je pense qu'effectivement, il est très difficile de négocier avec des gens qui ne veulent pas négocier. Mais cela dit, madame, je pense que les problèmes que vous soulevez sont de vrais problèmes. Je ne suis pas sûr qu'il soit spécifique à la mondialisation. Je veux dire, malheureusement, ces problèmes se posent indépendamment de toute référence à la mondialisation.
Vous avez dit à plusieurs reprises que le capital était mobile et que le travail, lui, était immobile. Alors il me vient deux réflexions à propos d'images que j'ai vues à la télévision où les annuaires français étaient tapés par d'immenses bureaux aux Philippines. Donc, grâce à l'informatique, le travail avait été externalisé. Mmh. Autre type de mobilité du travail. Est-ce que le fait que, quand on repousse les frontières de l'Europe, le type d'immigration va varier et varie en Europe. Mmh. Est-ce que vous ne croyez pas qu'au contraire, le travail, lui aussi, est de plus en plus mobile.
Alors,
on revient aux questions. Merci.
D'abord, c'est toujours relativement, hein, quand j'ai dit le travail est mobile, immobile et le capital est mobile, c'est en termes relatifs. Donc, il n'y a pas de comparaison entre la mobilité du capital et celle du travail. Alors, sur le premier exemple, oui, c'est effectivement des conséquences de la mondialisation, mais je dirais que c'est une conséquence extraordinairement positive. Oui. Oui, c'est une conséquence extrêmement positive. Pourquoi ? Parce que l'avantage comparatif de ces pays, c'est de pouvoir faire ce travail de saisie. Et c'est-à-dire, il faut être clair. Tout dépend de ce que l'on veut faire de la mondialisation. Soit on considère que la mondialisation, c'est un processus où la richesse, la sécurité est un bien qui doit rester entre les mains des riches et que donc on ferme tout, on fait tout chez nous et les autres, ils ont qu'à se débrouiller. Ou bien on estime que ça fonctionne sur la base de l'avantage comparatif, c'est-à-dire qu'eux gagnent en faisant des choses que nous faisions, mais qui sont à relative faible valeur ajoutée, et que nous allions vers des créneaux à plus forte valeur ajoutée. Et c'est la même chose pour l'immigration. Et moi, je dis toujours aux gens, faites très attention, vous ne pouvez pas à la fois demander la fermeture des frontières et la lutte contre les inégalités à l'échelle du monde. Ceux qui prônent la fermeture des frontières, ceux qui s'insurgent contre les délocalisations et qui s'insurgent contre les apports d'immigrés, sont des gens qui refusent le développement aux pays du Sud. C'est aussi simple que ça. Parce que historiquement, c'est comme ça que nous nous sommes développés. Donc il faut laisser, mais je ne pense pas d'ailleurs que vous l'ayez dit négativement, je pense que c'était une remarque, mais il faut, j'en profite pour dire qu'il faut laisser une marge aux pays du Sud, leur laisser faire un certain nombre de choses que nous faisions, et de ce point de vue-là, les délocalisations ne sont pas une catastrophe, même si évidemment ça pose un certain nombre de problèmes, mais que nous avons intérêt à aller vers des choses qui ont une valeur ajoutée beaucoup plus forte. C'est comme ça que le monde peut évoluer. Pour ce qui est de l'immigration, oui, mais vous savez, on a un besoin migratoire. Si dans 30 ans, il n'y a pas un apport massif d'immigrants, nous allons vieillir et nous appauvrir et décliner profondément. Donc l'Europe, de toute façon, a intérêt pour son propre avenir à ouvrir ses frontières si elle veut survivre comme entité historique. C'est aussi simple que cela. Sans quoi, en 2050, nous aurons 100 millions de moins d'habitants.
Pour aller dans le sens de vos remarques de l'instant, je voudrais que vous alliez un petit peu plus loin en essayant de nous donner des pistes pour améliorer la légitimité de la décision politique dans des situations où, par exemple, les pays occidentaux amènent une aide financière importante à la reconstruction d'un pays comme l'Afghanistan, mais cette aide financière contribue à payer les salaires des fonctionnaires afghans à hauteur de 35 dollars par mois et des conseillers internationaux à hauteur de 30 000 dollars par mois. Ou, par exemple, une autre situation où les politiques ont à prendre des décisions en matière de retraite dans nos pays où on se bat pour le nombre d'années ou l'âge de passage à la retraite à 60 ans ou 58 ans, etc., alors que la majorité de la population du monde n'atteint pas cette espérance de vie. Est-ce que vous pouvez nous donner des pistes pour améliorer la légitimité des décisions politiques dans ces situations ?
Bon. Les deux cas que vous citez sont des cas, à mes yeux, très différents. Alors, sur le premier, c'est un problème qui soulève deux questions. La première, c'est évidemment, les coûts de fonctionnement de l'aide. Et c'est effectivement vrai que plus d'un tiers de l'aide publique au développement, qui s'élève à 50 milliards de dollars par an, est consacré à la gestion administrative de cette aide, hein, ce qui est quand même tout à fait phénoménal. Et ces 50 milliards ne sont pas grand-chose, en fait, aux côtés des subventions agricoles qui permettent de nous protéger contre les importations des pays en voie de développement, subventions qui s'élèvent à 360 milliards de dollars. Mais ça a un coût. C'est un coût pour nous, et donc il faut en avoir conscience. La solution, il n'y a malheureusement pas de solution miracle, mais je dirais qu'il y a au moins une chose qu'on peut essayer de faire, c'est de respecter les engagements qu'on a pris à l'échelle mondiale, au moins en matière d'aide publique. C'est déjà pas mal. Pour le moment, de toute façon, on en est très loin. Alors, en ce qui concerne le deuxième problème, c'est un lien qui m'échappe, alors, parce que effectivement, le fait que l'espérance, je ne vois pas en quoi le fait que l'espérance de vie effectivement n'atteigne pas 60 ans devrait nous conduire à ne pas nous poser la question de nos retraites, alors que nous, effectivement, nous vieillissons et notre espérance de vie ne cesse de s'accroître. Donc je ne vois pas tellement le rapport, sinon peut-être pour souligner, il y a le différentiel, mais ça renvoie aux inégalités de développement et les inégalités tout court qui existent à l'échelle du monde.
Bien. Zaki Laïdi, merci.
Merci. Merci.